sur l'autoroute, ça ne m'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la...
Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, en femme, Radio Zone. C'est le remue-ménage s'est calmé, le ciel est noir, il va pleuvoir. J'espère que j'arriverai à rentrer avant l'orage parce que je suis en deux roues. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est la pleine lune dans vos oreilles. Comme tous les mercredis à partir de 18h30, la pleine lune sur 93.8 MHz avec notre numéro de téléphone, le 450 40 51 41 059 depuis la Suisse voisine. Une adresse aussi, Onde Femme sur Radio Zone. 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. Au programme ce soir, dans quelques instants, les informels, les nouvelles de la pleine lune. Et puis ensuite, Marjolaine vous ouvre son cœur. Restez à l'écoute sur 93.8. Dans quelques instants, les informels. Radio Pleine Lune, 3.8 MHz, son de femme, Radio Zone. Le gouvernement français a enfin nommé son ministre, nouveau gouvernement dirigé par Jospin, un gouvernement de gauche, féminisé et rajeuni. Lionel Jospin a tenu ses engagements en composant une équipe resserrée où les femmes obtiennent des portefeuilles importants. 8 femmes ministres, dont Martine Aubry à l'emploi, Elisabeth Guigou au garde des Sceaux, Catherine Trottmann à la culture et porte-parole du gouvernement, Dominique Voynet, l'écologiste, à l'aménagement du territoire et à l'environnement, Marie-Georges Buffet, jeunesse et sport. On peut encore noter la présence de Ségolène Royal, chargée de l'enseignement scolaire, et également de quelques ministres secrétaires d'État. Ce qui est intéressant, c'est non pas tellement c'est le nombre, bien sûr, des femmes ministres, mais c'est surtout qu'elles obtiennent des postes qui auparavant étaient vraiment la chasse gardée des hommes, postes de pouvoir, postes de responsabilité, postes de prestige, comme le ministre de l'Emploi, le garde des Sceaux ou encore la culture. Jamais, jusqu'à présent, il y avait des femmes. Les femmes avaient toujours été cantonnées dans les domaines à qualité féminine, c'est-à-dire principalement la santé et l'éducation. Réunis en Suède, les socialistes européens sont partagés entre libéralisme et défense de l'État. On a pu entre autres apprécier le socialisme à la sauce Tony Blair. Ainsi, le Parti travailliste anglais, avec Tony Blair à sa tête, qui gouverne également l'Angleterre. Pour le Parti travailliste, il faut absolument briser la culture d'assistance et de dépendance dont sera victime la plupart des bénéficiaires d'une forme d'aide sociale publique. Tony Blair a violemment dénoncé l'État-providence passif. Il appelle, je cite, un changement radical de nos valeurs et de nos attitudes sur ce sujet. Changement qui consisterait à privilégier le travail. Au bout de quelques temps, nombre de chômeurs bénéficiaires d'une aide publique s'en verront privés s'ils venaient refuser une offre de travail privé, public ou dans le secteur associatif qui leur serait faite par les services de l'emploi. On retrouverait donc ces fameux working poor, les pauvres qui travaillent. Les mères célibataires sont particulièrement visées par ces mesures de mise au travail forcé. En tout cas, avec une gauche pareille, on n'a pas besoin de droite. Le pape, lors de son voyage en Pologne, est intervenu violemment dans le débat sur l'avortement qui est très virulent en Pologne. Avant de se rendre au sanctuaire de Częstochowa à Zakopane, dans le sud de la Pologne, le pape a réaffirmé sa ferme opposition à toute forme d'avortement. Je cite, « Le droit à la vie n'est pas une question d'idéologie ni un droit religieux, c'est un droit de l'homme et même plus fondamental d'entre eux. » Un droit d'homme, bien sûr, en tout cas peut-être pas le droit des femmes. Il a déclaré également une civilisation qui refuserait les êtres sans défense mériterait le nom de barbare. Le pape a repris sa formule selon laquelle un pays qui tue ses propres enfants est un pays sans avenir, en précisant, je cite toujours, il n'est pas facile de dire cela en pensant à son propre pays. Ce rappel intervient 8 jours après un jugement de la Cour constitutionnelle déclarant inconstitutionnelles les dispositions de la loi polonaise autorisant l'avortement en cas de difficultés matérielles et personnelles. D'ailleurs, sur l'avortement en France, les groupes anti-avortement continuent leur épreuve de force et leurs attaques de cliniques. Deux cliniques ont été attaquées ces derniers temps, toujours menées par l'activiste de l'action anti-avortement, le docteur Xavier Dor, qui a de nouveau été placé en garde à vue samedi dans la matinée. Et lui-même, Xavier Dor et 5 de ses sbires avaient occupé le hall de la clinique de Chesnay après avoir déployé une banderole qui affirmait « Ici, on tue des bébés sans voler ». Le commando a aussi imposé au personnel de la clinique cantique et prière. Le même jour, un autre commando, conduit également par le même Xavier Dor, qui vraiment est très actif, avait mené une action similaire dans une clinique du 13e arrondissement de Paris. Au Pérou, à Lima, suite dans l'affaire d'une jeune femme militaire torturée par ses collègues. Léonore La Rosa, agent féminin du service de renseignement de l'armée péruvienne, avait été torturée entre janvier et février de cette année par des collègues qui la soupçonnaient d'être à l'origine de fuites en direction de la presse sur des opérations du service. Elle vient d'être rayée des cadres de l'armée. Voilà la manière dont on règle les problèmes de violence contre les femmes dans l'armée péruvienne. Elle a ajouté qu'on l'avait à cette occasion invitée, je cite, à s'abstenir de faire des déclarations. La dénonciation des tortures, brûlures aux mains, aux cuisses, coups que lui avaient infligés ses collègues avait suscité une grande émotion, provoquant la destitution des hauts responsables militaires. Les agents mis en cause ont été condamnés par la justice. En Suède, une femme est nommée première évêque luthérienne. Il s'agit de la Suédoise Christina Odenberg, à 57 ans. 7 ans, elle a été nommée évêque de l'église luthérienne. Cette nomination, qui remonte à la semaine dernière, est un événement marquant dans un pays très attaché à l'égalité des sexes. Elle avait reçu le soutien des pasteurs et des laïcs de son diocèse. Mais les ecclésiastiques conservateurs n'ont pas apprécié du tout cette idée. Certains ont même menacé de quitter l'église et de considérer le diocèse de cette région comme vacant. Les institutions pour le développement se tournent désormais vers les femmes, surtout dans les régions africaines, où les femmes deviennent de plus en plus l'avenir de tout le continent. Car l'Afrique et les femmes ont en commun d'inspirer sinon la compassion, du moins l'inquiétude quant à leur avenir. En effet, il n'est pas certain qu'à l'horizon d'une génération, les femmes obtiendront des meilleures conditions de vie et verront le principe d'égalité entre les sexes respecté dans les faits. Parallèlement, il n'est pas évident que la prochaine décennie verra s'améliorer la situation du continent africain. Pour autant, il est abusif de conclure que pour les unes comme pour les autres, le pire est à prévoir. En Afrique, la lutte contre la pauvreté repose en grande partie sur les femmes. Si de nombreux experts parlent d'africanisation de la pauvreté, il convient également de dire qu'elle se féminise. Sur les milliards de personnes qui survivent dans le monde dans des conditions misérables, 70% sont des femmes. Et en Afrique, une femme sur deux ne dispose pas de 2400 calories quotidiennes contre un homme sur trois. Il n'y a pas qu'en Afrique une Afrique des guerres et des crises, explique Odile Sorgho-Moulinier, représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement au Sénégal. Il y a également une Afrique qui vit, qui marche et elle repose souvent sur les femmes. On considère que la femme africaine travaille en moyenne 16 heures par jour. Le plus souvent, ces activités ne sont pas génératrices de revenus, elles assurent seulement la subsistance quotidienne. Ici, les hommes travaillent beaucoup moins que les femmes. Hassane Saring Darabakaba, ministre guinéenne des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance. Ils se contentent d'être présents pour les récoltes et après prennent des vacances. Les femmes travaillent toute l'année, ce sont elles qui font vivre les familles. Chaque fois que vous voyez une production quelconque, vous pouvez penser qu'elle est assurée à 80% par les femmes, renchérit même un homme politique de l'opposition. L'idée de s'appuyer sur les femmes et leur force de travail pour lutter contre la pauvreté est désormais acquise par les gouvernements, les bailleurs de fonds et les ONG. Tout le monde s'accorde désormais à vanter les qualités des femmes et cherche à leur proposer des moyens de s'en sortir. Pas question pour autant de développer des programmes exclusivement réservés aux femmes. Nous ne cherchons pas à travailler avec les femmes au détriment des hommes, explique la directrice d'une organisation qui gère la coopération américaine avec l'Afrique. Mais le handicap majeur des femmes est qu'elles cumulent des obstacles pour accéder à l'autonomie, notamment financière. Ainsi, le système bancaire est inadapté. Pour obtenir un prêt, il faut posséder une épargne suffisante, proposer des biens en caution, deux conditions que les femmes ne peuvent remplir. Seul le recours aux usuriers, dont les taux sont prohibitifs, est la seule possibilité, mais ça rend impossible tout enrichissement personnel. Pourtant, des banquiers ont tenté des expériences nouvelles. On avait déjà parlé de la célèbre Grameen Bank au Bangladesh, qui a bâti son succès en prêtant justement à des pauvres et principalement à des femmes. On apprécie d'ailleurs le fait que les femmes rendent l'argent beaucoup plus vite que les hommes. Les femmes sont des emprunteurs extrêmement fiables, beaucoup plus que les hommes, s'accordent à dire toutes les ONG. Au Sénégal, dans le petit village de Fandan Wolof, cerclé de bambous, tout près de Dakar, vit par exemple Aminata, qui a 20 ans et peut se vanter de n'avoir jamais failli dans le remboursement de son crédit. Mariée à 14 ans, mère de deux enfants aujourd'hui, sa vie a changé depuis que le village s'est équipé d'un puits et d'un moulin. 48 femmes se sont organisées en groupements d'intérêt économique et vendent leur production. Aminata a de l'argent, pas beaucoup, dit-elle, mais enfin, je ne pensais pas en posséder jamais un jour. Son mari voudrait bien que les femmes du groupement lui prêtent un peu d'argent, mais pas question, exulte Aminata, fière de son autonomie. En Suisse, lancement de la campagne contre l'arrêté fédéral d'urgence sur la question du chômage. Serait le référendum à aboutir, reste maintenant à remporter la victoire dans les urnes. Les référendaires promettent une campagne débridée, intensive, proche de la population. Ils sont des membres du comité référendaire qui a réussi cet hiver cet exploit de récolter 50 000 signatures alors que toutes les grandes centrales syndicales et les partis comme le Parti socialiste avaient refusé d'appuyer ce référendum. Qu'est-ce que c'est que l'arrêté fédéral d'urgence ? Il a été voté par les chambres fédérales en décembre 1996 et appliqué. Cet arrêté diminue les indemnités de chômage de 1 à 3% selon les charges de famille. Il supprime également 250 millions de francs que la Confédération versait pour l'assurance chômage et enfin oblige le chômeur à accepter un emploi si celui-ci procure les 68% du salaire assuré contre 70% précédemment. On voit bien l'utilité de cet arrêté, c'est de faire une pression sur tous les salaires. Après avoir fait aboutir le référendum, les différents comités unitaires anti-arrêté d'urgence vont donc se mettre au travail et très rapidement puisque la votation aura lieu le 28 septembre. À Lausanne, ça a déjà commencé. On a pu assister à midi sur une place où énormément de passants sont là. À une petite saïnette où on voyait un ouvrier bûcheron armé d'une tronçonneuse qui débitait une échelle et qui peu à peu s'effondrait. Une grande banderole plantait le décor en affirmant « lutter contre le chômage, non contre les chômeurs et les chômeuses. Votons-nous le 28 septembre à l'affût chômage ». L'échelle symbolise la protection sociale et la tronçonneuse, le démantèlement de celle-ci. Par cette action, le comité vaudois a donc lancé la campagne. C'est avec le sourire que la plupart des badauds ont pris le trac du comité qui rappelait les principaux enjeux de cette consultation. À Genève, ça va commencer jeudi avec un apéro à la place du Mollard. Première rencontre placée sous le signe de la décontraction. Pas de défilé, de grands discours, musique, verre, amitié, bonne volonté. Nous souhaitons solliciter la participation de nombreux citoyens, lance Pierre Vanek, membre du comité. En attendant, plusieurs points sont déjà fixés. Un rendez-vous le 25 juin dans les locaux de l'Union syndicale pour mettre et peaufiner la campagne. Et puis une brochure, les 6 bonnes raisons qui vous feront voter non le 28 septembre 77. Brochure qui est déjà disponible à l'Union syndicale vaudoise. car ce qui est extraordinaire et intéressant, c'est que l'Union syndicale suisse, voyant que le référendum avait abouti, est montée dans le train. Le Parti socialiste et l'USS, qui pour des raisons tactiques ne voulaient pas soutenir le référendum, ont décidé donc d'injecter 1 million de francs dans la campagne. On retrouve le front politique qui a permis de refuser la révision de la loi sur le travail en décembre, rappelle Pierre Vanek, qui n'est pas très... qui a une mémoire assez courte et il n'a pas envie de remuer les vieux souvenirs. En tout cas, ce fascicule peut être commandé à l'Union des syndicats du canton de Genève ainsi qu'à l'Union syndicale vaudoise. Toujours par rapport au chômage, rappelons qu'à Genève, le Conseil d'État a accepté de revoir la question des occupations temporaires qui sont maintenant obligatoires après 150 indemnités chômage. Aujourd'hui, le Conseil d'État a donc gagné le premier tour. Ce n'est plus les personnes à qui on proposera des occupations temporaires, mais on prendra en compte le revenu total du ménage. En clair, si le revenu du ménage dépasse 8000 francs, la personne du ménage qui se trouve au chômage n'aura pas droit à des occupations temporaires et donc verra ses droits à pouvoir continuer à toucher le chômage complètement supprimés. Imaginons à qui cette mesure s'adresse. 8000 francs, c'est plutôt un salaire masculin. On voit donc que les femmes perdront encore plus leur autonomie financière. Comme en Valais, on veut résoudre la question de l'emploi et du chômage sur le dos des femmes. Toujours en Suisse, le tribunal fédéral a signé l'arrêt de mort de la question des quotas féminins. Tout quota qui fixerait un pourcentage obligatoire de femmes dans les institutions politiques a été rejeté par le tribunal fédéral. On connaissait la décision, en mars déjà, qui déclarait anticonstitutionnelle l'initiative soloroise qui demandait qu'il y ait un quota moitié-moitié de femmes à l'exécutif et au législatif. Maintenant, on a les raisons de ce refus. En fait, toute forme de nuance a disparu et c'est une véritable condamnation à mort qui en ressort. Au point qu'aucune mesure positive ou presque tendant à la promotion des femmes, de quelque nature qu'elle soit, ne semble devoir trouver grâce auprès de la plus haute instance judiciaire du pays, qui bien sûr comprend que des hommes. Il y a donc interdiction de fixer des quotas, quels qu'ils soient, que ce soit les quotas rigides, fixation d'un pourcentage minimal de femmes, ou les quotas flexibles, à qualification égale, par exemple, on engage plutôt une femme. Selon le tribunal fédéral, il faut veiller que ne pas introduire un système avec une nouvelle discrimination pour les hommes, les pauvres, ils sont tellement discriminés par le monde de l'emploi et du travail. C'est terrible. Et le monde politique encore plus. L'arrêt s'attarde complaisamment sur une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui, en 1976, avait annulé une disposition d'un Land allemand selon laquelle, pour augmenter le nombre de femmes dans l'administration, on leur donnerait la préférence. La Suisse, dit le tribunal fédéral, ne fait pas partie de l'Union européenne, mais quand ça nous arrange, on peut quand même tenir compte de son avis. Les juges partent de l'idée que la position des femmes dans les instances politiques helvétiques s'améliore lentement et dans le travail également. Sûrement, il n'y a donc pas lieu de prendre des mesures législatives. Peut-être que la perspective de voir en raison des quotas une femme déclarée élue alors qu'elle aurait recueilli moins de voix qu'un homme constitue une sorte de vision d'horreur, de même que celle où lors d'une élection complémentaire, seules les femmes pourraient être candidates. Il y a là atteinte, souligne le tribunal fédéral, à la liberté de vote, d'élire et d'être élue. Alors même que le but d'une politique tendant à une vraie égalité des chances devrait aboutir à ce que les sexes ne jouent aucun rôle dans les élections, continue le tribunal fédéral. Malheureusement, pour l'instant, ça reste encore le cas. On le voit bien, il y a toujours peu ou presque pas de femmes dans les instances dirigeantes, économiques ou politiques en Suisse comme dans les autres pays d'Europe. La campagne contre la violence dans le couple a tapé dans le mille, si on peut dire, puisqu'elle a reçu un large succès. Entre autres, la ligne 157 mise à disposition pour les femmes victimes de violences a été un véritable succès. Plus de 700 appels sont arrivés à peine dans un mois. Nous avons été très surprises de recevoir autant d'appels. constate Liliane Studer, coordinatrice de la campagne nationale Halte à la violence. Campagne lancée le 6 mai dans toute la Suisse. Plus de 700 appels sont déjà arrivés et surtout, ils viennent souvent de la part de femmes d'un certain âge. Les premiers jours de la campagne, au plus fort du battage médiatique, le standard était saturé. Nous n'attendions pas un tel afflux de demandes de la part de victimes ou de leur entourage. Cela donne en tout cas tort aux sceptiques qui jugeaient superflu de dénoncer ce tabou à leurs yeux révolus. Si ces femmes peuvent trouver un certain réconfort à s'exprimer, elles ont aussi besoin de conseils et d'aide. Et il manque un manque crucial de structures d'aide et d'écoute, surtout pour les personnes plus âgées qui ne vivent pas dans les villes, pour qui se déplacer représente un véritable problème. Nécessaire dès lors de sensibiliser aussi les services sociaux dans les régions et d'améliorer la formation dans ce domaine. Des professionnels en mal d'information se sont d'ailleurs également adressés au numéro vert. La campagne qui se prolonge jusqu'au 6 juillet est la plus importante jamais réalisée en Suisse. Au projet national, nationaux se sont ajoutées des initiatives à l'échelle des cantons, par exemple à Fribourg. On a organisé des séances publiques décentralisées dans tout le canton. À l'heure du premier bilan, il faut remarquer que la campagne a soulevé des questions qui devront occuper les réflexions futures. Elles concernent en particulier les modèles de prise en charge des femmes battues. Les témoignages sont poignants. Nous constatons, dit toujours la responsable, que la prise de conscience ne se fait jamais d'un coup. Les femmes ont souvent du mal à identifier la violence dont elles sont les victimes. Mais quand elles énumèrent ce qu'elles subissent, les taxant de normal, il y a parfois de quoi être horrifié. La prise de conscience se fait rarement d'un coup. De nombreuses femmes disent ne pas être battues avant d'admettre qu'elles reçoivent des gifles ou sont poussées dans les escaliers. À préciser toujours la position assez ambiguë de certains journaux sur cette question, entre autres Le Courrier, que pourtant nous apprécions. Le Courrier critique fortement le fait que la campagne ait choisi en Romandie le matin pour publier un grand encart, une pleine page sur la question où plusieurs personnalités offrent leurs empreintes et soutiennent financièrement la campagne contre la violence domestique. Pour Le Courrier, c'est un mauvais choix. Le matin, effectivement, étant assez friand de violence et de situations plus ou moins assez sexistes. Mais en tout cas, sur la question de cette violence, nous rappelons que Le Courrier avait titré « Et les hommes battus, où sont-ils ?» C'est dire que les tabous ont la vie dure et la peau épaisse. En Valais, la secrétaire du VVF a été menacée de mort. Marie-Thérèse Sangras, secrétaire régionale du VVF en Valais, a été menacée de mort. Sur un message sur son répondeur où l'individu a déclaré « Fais attention, tes jours sont comptés ». L'organisation française menace très au sérieux puisqu'on se rappelle que le précédent secrétaire en Valais, Pascal Rudine, avait été victime d'une agression très violente dont les auteurs n'ont jamais été retrouvés. Et pour terminer, notre chapeau du cochon sexiste, un journaliste sportif en cravate sur France 2, Pierre Sienne, qui déclare « Stade 2 n'est pas suivi seulement pour les sportifs. En 6 mois, on a multiplié par 5 le nombre de femmes qui nous regardent. Les femmes ne sont pas sportives ou les sportifs n'ont pas de sexe. Mystère, ça mérite le cochon. » Pour terminer ces nouvelles, quelques rendez-vous, conférences, manifestations, événements qui se passeront à Genève ces prochains jours. Conférence donnée par Suzanne Lerche, architecte à Genève. Suzanne, que nous connaissons bien à Radio Pleine Lune, qui vient souvent nous parler de ses expériences. Suzanne a donc toute une expérience au Nicaragua et en Amérique centrale sur la question des municipalités, de l'habitat, du développement. Elle nous parlera de cette expérience, de ces projets qui sont en train de se développer en lien avec les quelques municipalités progressistes au Nicaragua, au Salvador, éventuellement plus largement. Conférence aura lieu le 12 juin, 18h. 18h30, ça a lieu au MAMCO, au Musée de l'Art Moderne et Contemporain, à la 10 rue du Vieux Grenadier. Ça continue également le week-end. Le week-end, c'est le 14 juin. Il y a une première, une manifestation, donc, où le collectif 14 juin appelle à vous rendre. C'est sur le problème du renvoi forcé des victimes de racisme, des viols, de la guerre en ex-Yougoslavie qui ont trouvé un refuge précaire en Suisse, qui sont forcés de quitter le pays. Donc, manifestation de protestation. Rendez-vous à la Treille à 14h le samedi 14 juin. Et puis, le samedi, autre manifestation, c'est les squatters qui vous appellent à un grand match de foot déguisé en footballeuse magnifique ou en footballeur. Départ 14h, Fusterie, le 14 juin, samedi, car le mot d'ordre, c'est faites de votre ville un terrain de foot. Alors, si vous avez soif, amenez à boire, la journée sera longue. Et puis, le jeu, ça se passe entre les squatters rive gauche, rive droite. Et puis, celui qui gagne, on ne sait pas très bien quel sera la forme de la coupe. Autre réunion, je vous dis, cette semaine, ce fin juin, c'est terrible. C'est le comité Viva Zapata qui organise une rencontre avec deux féministes mexicaines et une femme indigène du Chiapas. Ça se passe le dimanche 15 juin à 20h dans les locaux du site, c'est 16 rue des Chaudronniers. Ces femmes parleront de la situation des femmes au Mexique, de leur lutte, ainsi que du rôle des femmes dans la société du Chiapas, de leur contribution à la lutte zapatiste. Autre rencontre, c'est une rencontre avec les familles des prisonniers politiques du MRTA au Pérou. Le MRTA, c'est donc le Tupac Amaru, ceux qui ont pris en otage toute l'ambassade du Japon et qui se sont retrouvés massacrés lors de la libération des otages. Eh bien, la mère du commandant Serpa, assassinée le 22 avril, les familles des prisonniers politiques du MRTA seront là, car il faut rappeler qu'il y a encore 500 otages dans les prisons péruviennes, il y a encore des milliers de prisonniers politiques au Pérou, il y a encore un peuple tout entier, otage de la dictature néolibérale de Fujimori. Il n'y a pas de victoire sans lutte. Tupac Amaru vive toujours. C'est donc une rencontre. Ça a lieu le jeudi 19 juin à 20h à la grande salle du site, 16 rue des Chaudronniers. Il y a encore une soirée. Excusez-moi, il y a encore une rencontre à l'université le vendredi 13 avril à 20h à l'université au Bastion avec entre autres un Tristan et une femme de la République dominicaine qui nous parlera de leur expérience en tant que clandestine. Voilà, c'était la pleine lune sur 93.8 MHz, Ondes Femmes Radio Zone. Dans quelques instants, Marjolaine vous ouvre son cœur. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.
Oye mujer, ceiba la... Se han vuelto a tri-